birbirimizi.
Je sais pas s'il y a eu le temps de finir ses vacances ou si l'actualité hockey l'a extirpé de ses vacances. Ben, jusqu'à je dis c'est l'actualité hockey, c'est juste pour me dédouaner de l'avoir appelé comme ça en pleine radio. Mais on n'avait pas le choix parce que ce sont de grosses nouvelles qui nous sont parvenues du côté du Canadien de Montréal. Hier, le Canadien a annoncé qu'il n'égaliserait pas l'offre hostile qui a été faite par les Hurricanes à Caroline à l'endroit du centre Jesperi Kotkaniemi. Donc, il s'en va en Caroline. Il va gagner 6,1 millions de dollars la prochaine année. Et les Hurricanes envoient à Montréal un premier choix et un troisième choix repêchage qui ont presque immédiatement été échangés contre le jeune centre Christian Dvorak des Coyotes d'on sait pas où en Arizona. Bon, ça, c'est les nouvelles. Martin McGuire, salut!
Allô, comment allez-vous?
Ça va mal!
Comment ça que ça va mal?
Ben non, ça va pas si mal. C'est juste le temps que j'accepte que mon cher Jesperi, que j'aimais beaucoup, ne sera plus avec le Canadien. Mais j'ai pas le choix vraiment de l'accepter parce que 6,1 millions de dollars, ça faisait pas de sens.
Non, ça faisait pas de sens. D'autant plus que c'est pas seulement 6,1 millions de dollars pour un an.
Ouais.
Parce que dans la réalité, si les Hurricanes de la Caroline veulent conserver ses droits pour l'an prochain, au total, ça coûtera près de 12 millions de dollars pour deux ans. Parce que, potentiellement, si les Hurricanes ne le qualifient pas à 6,1 quelques virgules millions de dollars, ils vont perdre tout simplement les droits de Kotkaniemi. C'est ça qui va rendre les choses assez compliquées. Mais les Canes ont pas fait les choses complètement au hasard. Ils ont deux joueurs de centre qui sont en fin d'entente, dont Vincent Trocheck, qui occupe le poste de deuxième centre de l'équipe. Alors, derrière Sébastien Aho, peut-être que Kotkaniemi représentera une solution si on n'est pas capable de s'entendre avec Trocheck, qui potentiellement pourrait aller sur le marché. Ça, c'est pour les Hurricanes. Maintenant, pour le Canadien. C'est sûr que le Canadien perd un joueur qu'ils ont repêché au troisième rang au total. Quand tu repêches normalement un joueur parmi les 3, 4, 5 premiers, sans dire qu'il a le tag, pour parler un mauvais français, de joueur concession, c'est supposé devenir un joueur d'impact assez rapidement dans ton équipe. Jesperi Kotkaniemi approchait la barre des 150 matchs joués chez les professionnels et ne démontrait pas qu'il était pour être un joueur d'impact offensivement. Par contre, il n'est pas dit qu'il ne deviendra pas un bon joueur. Donc, le Canadien le laisse partir, mais ne sait pas ce que sera Kotkaniemi dans 3, 4, 5 ans. Ils ont mis la main sur Dvorak, qui est un joueur un peu plus vieux, qui a 25 ans, qui a quelque chose de mieux à offrir que Kotkaniemi pour l'immédiat, mais probablement que dans 3-4 ans, Dvorak ne sera pas meilleur qu'il est là. Sauf que Kotkaniemi, ça va être intéressant de voir s'il aura progressé. C'est là où est le déséquilibre un peu dans cette transaction-là.
On est-tu d'accord pour dire, Martin, que la réaction, ultimement, on regarde ça parce que, bon, c'est comme un peu terminé. En tout cas, les Hurricanes, les autres, ils n'ont pas fini avec leur compte Twitter. Là, ils continuent de planter le Canadien. Je disais qu'ils ont ils ont changé leur bio pour un truc du genre « maître incontesté des offres hostiles ». Ils font tirer des cartes cadeaux de 20$. Puis,
mais ça, c'est des gens du marketing. C'est des gens du marketing, mais en même temps, tu sais, ils devraient... Il devrait ramasser, comme on dit chez nous, là, ramasser le magot, là, puis se contenter de dire, ben on l'a eu, on voulait jouer là, on l'a eu. Sauf que, tu sais, on saura jamais si Don Waddell le voulait vraiment, ce joueur-là. Tu sais, parce que le propriétaire des Canes, on le sait, on le connaît un petit peu, là. Fait pas longtemps qu'il est dans le giron, mais on le voit là aller, là, puis c'est un phénomène, lui. Alors, tu sais, on sait que lui voulait se venger, là, ça c'est correct. Sauf que est-ce que Don Waddell voulait mettre tout cet argent-là sur Kotkaniemi? Ça, c'est une autre grande question. Mais après avoir dit ça, il reste qu'il ramasse un gars de 21 ans. Puis le Canadien tourne la page sur un autre choix, un autre haut choix, qui n'aura pas livré la marchandise.
au-delà des moments épiques où des fois je t'ai entendu décrire le hockey avec beaucoup d'émotion, la fois que je t'ai senti le plus émotif, Martin, c'est quand on s'est parlé du départ de Philippe Danault. Hier, quand Kotkaniemi est parti, la première affaire qu'on s'est dit avec le chum avec qui j'étais au souper, c'est « Ouais, finalement, un petit coup de fil à l'agent de Philippe Danault, puis 5 millions et demi, c'était-tu si cher que ça? » Tu sais, finalement, on le regrette un peu. Encore plus, écoute, peut-être.
Tu sais, Dvorak qui s'en vient a une qualité. Il y en a plus qu'une, mais il y en a une entre autres. C'est un pourcentage d'efficacité de 52% dans le cercle de mise en jeu.
Oui, c'est bon.
Mais attention, Dvorak, ce n'est pas Philippe Danault. Il est pas écoutez comment fait foi là son moins 19 en 2017-2018, son moins 11 en 56 matchs en 2021, vous allez me dire il jouait pas avec une grande équipe, c'est correct là. Mais c'est pas Philippe Danault. En termes d'efficacité, ça sera pas Philippe Danault. Mais c'est sûr que je pense que si on avait su que les Canes étaient pour envoyer une offre hostile, Je pense que Marc Bergevin aurait trouvé une façon de s'entendre avec Danault, parce que de toute façon, ça aurait été possible de le faire, s'entendre avec Danault, sans trop de problèmes, s'il y avait eu un peu plus de volonté de la part de Marc Bergevin dans ce dossier-là. Après avoir dit ça, il y a quand même Marc Bergevin réussi un pas pire coup hier, parce que là, il y avait un trou au centre, et il a réussi à le combler. Ce sera pas aussi bon, mais au moins, il est allé se chercher un joueur qui va pouvoir, derrière Nick Suzuki, assumer certaines minutes de jeu. Mais je le dis encore, là, quand il va être pris pour affronter les Matthews, les Patrice Bergeron, les Braden Point et compagnie, qui reviennent toutes dans la division du Canadien, là, ben c'est peut-être la division où il y a le meilleur contingent de joueurs de centre, entre autres. Là. C'est sûr que Dvorak ne sera pas Philippe Danault.
Il y a un élément qui est très intéressant dans la transaction qui amène d'ailleurs Dvorak à Montréal, c'est que le Canadien envoie des choix, un premier choix et un deuxième choix, mais le premier choix au repêchage qu'ils ont donné se trouve à être finalement le plus haut des premiers choix, soit celui du Canadien, soit celui obtenu de la Caroline en échange de Kotkaniemi. Bon, à l'exception faite, là, si les deux sont dans le top 10, mais on peut presque déjà écarter cette option-là. Là.
Tu penses pas? Non, je sais pas. Tu penses que le Canadien pourrait pas être dans le top 10 du repêchage de 2022?
Non, c'est les Hurricanes, moi, que j'ai de la misère à penser qu'ils pourraient être aussi proches que ça.
Non, je pense pas que les Hurricanes... Tu sais, les Hurricanes, ça pourrait être un choix de mi-première ronde ou dernier tiers. Tu sais, les Canes, là, c'est une bonne équipe. Ils ont laissé partir Hamilton à la défense, mais dans le filet, là, c'est ordinaire un peu. Alors, tu sais, une équipe ordinaire devant le filet, puis une bonne équipe à l'attaque, on l'a vu avec les Oilers d'Edmonton, ça veille pas trop tard habituellement, mais on verra bien, là. Mais dans le cas du Canadien, tu sais, là, dans cette optique-là, Marc Bergevin a quand même assez bien manœuvré, parce que si la loterie plaçait le meilleur choix du Canadien dans les 10 premiers, à ce moment-là, ce serait l'autre.
OK, c'est un des deux choix. Je pensais que c'était si les deux choix se retrouvaient dans le top 10. Un seul des deux choix est dans le top 10. OK, c'est mieux, parce que je me disais, il y a quand même tellement peu de chances que les deux choix se retrouvent dans les 10 premiers que le Canadien va perdre un choix élevé, mais c'est pas nécessairement le cas, c'est ça.
Non, en fait, s'ils en ont un dans les 10 premiers, ils donnent le pire des deux.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Alors, tu sais, écoute, quand même... une équipe comme les Coyotes de l'Arizona ne se départisse pas d'un joueur comme Dvorak en retour d'un choix de repêchage pour rien.
Ouais.
Je le rappelle. Si Dvorak avait été un joueur pour eux qui aurait été vraiment important, un incontournable, même pour un choix de première ronde, il l'aurait probablement pas laissé partir, parce que en Arizona, le choix de première ronde, il jouera pas tout de suite. Là. Choix de première ronde du Canadien, il jouera pas tout de suite. Alors, voilà. Ouais. Mais il s'en sort pas trop mal, Marc Bergevin. Mais j'ai vraiment hâte de voir quelle sera la dynamique de cette équipe. Kotkaniemi avait pas un gros impact dans le vestiaire, là. Il avait pas non plus un gros impact dans l'alignement, malheureusement. Il a marqué une couple de buts importants, là, ici et là, depuis sa carrière avec le Canadien. Mais c'était pas un incontournable chez le Canadien. Puis dans le vestiaire, encore moins. Tu sais, même que je pense que dans la dernière année, là, dans le dernier droit, là, Sans le dire ouvertement, loin de là, là, je pense que pas personne se serait risqué à faire ça, mais les ailiers qui étaient pris pour jouer avec lui, là, trouvaient ça pas mal moins le fun que de jouer avec Suzuki ou avec Dano.
Mais Marc Bergevin va commencer à rider, par exemple, Martin, parce que il me semble qu'à la fin de la dernière saison, en tout cas pendant la dernière saison, on se disait, d'après moi, c'est pas mal sa dernière. Finalement, se qualifie pour les séries, se rend en finale. On dit, mais quel grand génie, regardez toutes les acquisitions extraordinaires qu'il a faites l'été passé. Puis là, à la fin de l'été, on se dit, il me semble que Jeff Molson doit être impatient, puis il pourrait le congédier. Ça commence à être, il va blanchir des cheveux plus rapidement.
Ben, c'est déjà pas mal fait. Mais honnêtement, tu sais, ça fait partie de ce qui vient avec le job de gérant général à Montréal. C'est une semaine, les gens t'aiment, la semaine d'après, ils t'aiment plus. C'est un peu comme ça, là. Je pense que ça, s'il n'y en est pas au fait après presque 10 ans à Montréal, là, il y a un problème, là. Mais après avoir dit ça, ça reste quand même qu'on a un homme de hockey qui est en dernière année de contrat. Moi, je pense que si Marc Bergevin avait des visées de rester à long terme encore à Montréal, la prolongation de contrat serait déjà signée. Okay. Moi, je pense qu'il attend, puis je pense qu'il veut voir, puis il veut voir où peut-être sa vie professionnelle pourrait l'amener.
OK. Intéressant.
Je serais pas surpris. Puis du côté de la direction du Canadien, ben c'est sûr que quand un homme de... Tu sais, 10 ans, là, comme directeur général d'un club de hockey, là,
c'est long.
Dans la vie de tous les jours, là, c'est à peu près 20 ans de service pour la même compagnie.
Oui, c'est ça.
Et là, je dis pas que tu es obligé de te faire mettre dehors ou de partir après 20 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, surtout dans un milieu, tu viens de le dire toi-même, là, dans un milieu où les émotions s'en vont souvent en montagne russe et tout ça, où tu es vraiment, vraiment tributaire aux résultats, le sport professionnel étant ce genre de domaine-là, c'est sûr là, que 10 ans, généralement, il y a une remise en question au bout de 10 ans si les résultats sont pas au rendez-vous.
Oui, puis Marc Bergevin est pas parfait. Il a fait des bons coups, il a fait des erreurs, mais quand tu fais la balance des deux, il doit avoir une assez bonne réputation à travers la Ligue nationale.
Il a une très bonne réputation à travers la Ligue nationale. C'est un gars qui a beaucoup de contacts. C'est un gars qui a joué longtemps. Tu sais, aujourd'hui, là, les quelques anciens joueurs qui sont soit directeur général, assistant directeur général ou coach, écoute, il les a presque toutes côtoyés ou affrontés. Alors, tu sais, ça te donne un certain réseau de contacts. C'est un vieux de la vieille. Ça, en termes de mentalité, là, c'est un peu un old school. Il y a deux sortes maintenant d'hommes de hockey dans la Ligue nationale, là, vraiment tranchés. T'as les Dubus, les Julien Brisebois et compagnie qui sont de la nouvelle génération. Et t'as les Marc Bergevin qui sont des un peu plus vieille école. Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour les deux. Ça dépend quel genre d'organisation ou quel genre de propriétaire cherche quoi. Tu sais, est-ce que souvent quand... Tu sais, je te donne un exemple. Là, je veux pas conjurer le sort pour Kyle Dubus, mais si Dubus perdait sa job à Toronto dans un an ou dans deux ans, là, je t'annonce qu'ils vont vouloir un old school.
Ouais,
parce qu'ils vont vouloir changer un peu.
Aller chercher Lou Lamoriello, puis on coupe les cheveux à tout le monde, puis c'est réglé.
Ben là, M. Lamoriello va avoir 80, là, si à un moment donné, il va prendre sa retraite, là, mais...
Ah, t'sais... pas sûr.
Mais, moi non plus, je suis pas sûr.
On coupe les barbes.
Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que il va toujours avoir de la place pour un homme de hockey comme Marc Bergevin. Puis là, je vais te citer un homme de hockey de la Ligue nationale qui m'a dit un jour... Il dit, tu sais, quand tu réussis, puis là, il avait même pas dit 10, il avait dit 5. Il dit, quand tu réussis à faire 5 ans comme dirigeant dans un marché à Montréal, comme coach ou comme directeur général à Montréal, là, il dit, dans un CV, c'est comme d'avoir été à Harvard. Dans le sens que, quand tu as passé à travers ça, tu peux occuper le même poste dans à peu près tous les autres marchés de la Ligue nationale. Et ça, ça va toujours rester dans le CV de Marc Bergevin.
On est-tu d'accord, Martin, en terminant, pour dire que finalement, la raison pour laquelle il y a une loi non écrite que les offres hostiles, ça passe pas bien, c'est probablement parce que toutes les équipes, à un moment ou à un autre, ont une espèce de... Ce que Marc Bergevin avait appelé une vulnérabilité, je pense. On avait vu un endroit où l'équipe était vulnérable en parlant des Hurricanes quand il avait fait l'offre à Sébastien Aho, là. toutes les équipes, finalement, avec leur recrue, finissent par avoir une espèce de moment tampon comme celui-là où on se dit, OK, est-ce qu'on lui offre un contrat, un bridge, là, un pont? C'est-tu pour ça, finalement, que les autres DG souvent sont réticents à faire ce genre d'offre-là?
C'est parce que tu veux pas que ça te revienne dans le visage comme ça a été le cas pour Marc Bergevin. Souvent, les directeurs généraux vont être frileux de le faire à cause de ça. Ils vont se dire, OK, on va le faire. On l'essaie, mais en même temps, l'ascenseur va revenir.
C'est ça. Qui sait qu'on va se faire voler dans 2 ans?
Ben, c'est ça. Alors, quand nous autres, on va avoir un prospect solide qui va arriver au bout de son contrat d'entrée chez les pros, puis qui va peut-être déjà être un joueur clé dans notre équipe, on va peut-être s'attirer des coups, puis on va peut-être donner l'idée à quelqu'un d'autre de nous le faire. Mais sais-tu quoi? En même temps, moi, je pense que dans le futur, assez immédiat, il va peut-être en avoir plus de ces offres hostiles.
Ah oui?
Oui. Il va peut-être en avoir plus parce que regarde ce qui s'est passé lors du dernier marché des joueurs autonomes sans restriction, là. Mm-hmm. À peu près, puis du repêchage d'expansion, là, à peu près toutes les équipes avaient exposé leur mauvais contrat au repêchage. Il y en avait, là, de la qualité au repêchage d'expansion. Ouais. On se souvient, il y avait même Carey Price. Alors, aujourd'hui, les gérants généraux, quand ils vont sur le marché des joueurs autonomes sans restriction, ils sont un peu plus prudents parce qu'ils savent que ces contrats-là, dans 3, 4, 5 ans, vont devenir extrêmement lourds à porter. Et peut-être même trop lourds. Alors, le marché des joueurs autonomes avec restriction, qui sont des joueurs plus jeunes, vont peut-être être pour certaines équipes des soupapes. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, je te parle d'une équipe comme les Rangers ou les Bruins, là, tu sais, un marché d'importance. Là. Les équipes comme ça qui auraient de la marge de manœuvre sur la masse salariale, là, ils ont le choix entre un gars pour un contrat de 6-7 ans qu'ils vont surpayer puis qui est rendu à 27, 28, 29 ans versus un joueur de 23, 22, 24 maximum qui en a plus à offrir pour le même montant puis pour le même nombre d'années. Alors, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, la gêne va partir là-dedans. C'est-à-dire que la petite gêne que les gérants se gardent va partir parce que les propriétaires vont dire à leur gérant général, surtout si les Hurricanes de la Caroline faisaient de Kotkaniemi un joueur clé dans leur équipe, là, dans 2-3 ans, là, là, il y a des propriétaires qui vont dire à leur GM, « Écoute, ça a marché en Caroline. Hein? Ça a marché à telle place. Ça a marché à New York. Ça a marché à Philadelphie. Pourquoi tu y penserais pas? » Tu sais, c'est sûr que ça va toujours être le nombre de choix de repêchage que tu paies qui fait peur.
Ouais.
Mais honnêtement, là, quand tu repêches Logan Mayhew, là,
c'est revenu d'un texto, Martin, depuis que...
Tu penses-tu honnêtement que de donner 4 choix de repêchage, 4 choix de première ronde ou 3 choix de première ronde pour Sébastien Aho, ça aurait été une mauvaise affaire?
Ah, c'est ça.
Voilà.
C'est ça. La différence entre les deux offres hostiles, c'est que Marc Bergevin a offert un contrat qui était facile à égaler pour les Hurricanes. En tout cas, bref, on reviendra.
Logan Mayhew qui va jouer quoi dans le Junior A ou en Russie cette année. Là.
Ouais, c'est ça. Là. Il reste une place dans mon équipe, moi, dans la Ligue de garage du dimanche.
Ça va être, je pense que tu le veux même pas.
Non, les gars,
ça
ils ont dit non.
ça va être très bon pour son développement, lui.
Ouais. Merci, Martin. Ouais.
Salut, bonne journée.
Martin McGuire, descripteur des matchs du Canadien de Montréal sur le réseau Cogeco. Hein, Pascal?
Hey, mais hein? j'ai suivi à peu près, je dirais, au moins 53% de la conversation.
Ah, ben crime, c'est quand même bien.
Grâce à l'explication que vous m'aviez faite
la semaine dernière. Offre hostile 101.
Oui, j'ai vu dans les textos qu'il y avait quelqu'un qui se le demandait aussi.
Oui, non, c'est quoi une offre hostile? Je ne referai pas l'histoire au complet.
Mais c'est sur le site d'FM 93. Vous m'avez donné le cours la semaine passée.
C'est ça. Quand t'as une jeune recrue, là, il y a un certain moment dans son quand sont jeunes puis qu'ils ont des contrats de jeunes, là, que là, les autres équipes ils peuvent venir les voler puis ils donnent des choix en échange. Puis ça, c'est bien mal vu. C'est ça qui est arrivé.
En gros.
Ça, c'est la plus courte explication d'une offre hostile que je peux donner. Pour la longue, c'est disponible quelque part, fm93.com. En fin de semaine passée, c'est l'émission de dimanche. Fait qu'allez écouter 3 heures, puis vous allez le trouver. Bon, 8h30. On va dire pour une petite pause. On revient, ce sera pas long.